suite de la Compagnie des auteurs sur France Culture. Nous sommes rejoints à présent par Anatole Tomczak, qui vient de traduire une version inédite du portrait de Dorian Gray pour Grasset. C'est dans la collection Les Cahiers Rouges, traduction qui n'a pas encore donné lieu à une lecture pour la radio, comme celle de Jean Gattegno, dont voici un extrait.
On entendit un cri et une chute. Le cri était si terrible et si pathétique que les domestiques s'éveillèrent d'effroi et sortirent de leur chambre. Ils frappèrent, mais on ne répondit pas. Ils appelèrent, le silence était total. Enfin, après avoir sans succès tenté d'enfoncer la porte, ils montèrent sur le toit et sautèrent sur le balcon. Les fenêtres cédèrent aisément. Lorsqu'ils pénétrèrent, ils virent accroché au mur un splendide portrait de leur maître, tel qu'ils l'avaient vu le jour même, dans toute la splendeur de sa jeunesse et de sa beauté. Sur le parquet, gisait le cadavre d'un homme en habit de soirée, un couteau planté dans le cœur. Le visage était flétri, ridé, hideux. Ce ne fut qu'à l'examen de ses bagues qu'ils purent identifier le mort.
Dénouement du portrait de Dorian Gray, interprété en 1995 par Jacques Serré, dans une traduction qui n'est donc pas la vôtre. Anatole Tomczak, bonjour.
Bonjour.
Vous en pensez quoi de cette traduction ?
Ah bah elle est fantastique, c'est la traduction Folio, donc elle est très très bien, bien sûr.
Donc ça ne peut pas être la vôtre, puisque vous aviez 3 ans au moment où cette lecture a été enregistrée. Vous êtes né en 1992, ce qui est donc très jeune.
Oui.
Vous avez choisi de traduire un roman dont le thème est la valeur suprême que représente la jeunesse face au ravage du temps.
C'est vrai, c'est vrai. On me l'a proposé surtout, plus que je ne l'ai choisi, mais je me suis empressé d'accepter. C'est un roman fantastique, c'est un chef-d'œuvre, donc c'était, ouais.
On lit de la même façon ce livre à 24 ans et à 70 ans, selon vous ?
Probablement, en plus, c'était pas la première fois que je le lisais, c'est pas la première fois que je le découvrais. Donc, en réalité, même si je suis encore jeune, finalement, là, j'y revenais déjà avec déjà maturité, je crois. C'était pas ma au fond, je l'avais découvert encore plus jeune.
Quel moment? Vous vous souvenez de votre première impression de lecteur?
Oui, je pense que c'était je devais avoir 14-15 ans, et c'est vrai que ce qui m'avait frappé à l'époque, c'est qu'en fait justement le roman tourne en permanence autour d'un vide, autour d'un non-dit. Dorian Gray précisément n'a pas de sexualité, pour parler clairement, et même si évidemment Wilde n'était pas fou et qu'il restait prudent, en fait dans la première version, donc celle qu'il avait soumise au Leaping Cots Monthly Magazine, qui était le magazine américain où le roman avait été publié la première fois, Wilde était beaucoup plus explicite en réalité. Et, ouais, beaucoup plus explicite. Ouais.
Donc au fond, à 14 ans, vous avez senti qu'il manquait des pages à ce livre?
Non, mais c'est vrai que on voit bien que rien n'est dit en fait. C'est vrai, oui, on voit bien que rien n'est dit en réalité. Et on se demande en permanence quand est-ce que les choses vont arriver. Et justement, le roman crée une attente qui est constitutif de toute l'atmosphère de Dorian Gray, mais c'est vrai que dans la première version, il y a quand même des choses plus explicites, plus directes.
Alors cette première version, parlons-en, puisque c'est tout l'intérêt de cette nouvelle traduction que vous publiez donc au Cahier Rouge. Elle a d'abord paru dans cette revue américaine que vous venez de mentionner, le Leaping Cots Monthly Magazine.
Tout à fait, c'était un magazine, une revue mensuelle littéraire américaine, qui était publié conjointement aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Elle était dirigée par un homme qui s'appelait Joseph Marshall Stoddart, donc qui avait ses bureaux à Philadelphie. Et Stoddart admirait beaucoup Oscar Wilde. Il l'avait rencontré en janvier 82, quand Wilde arrivait à New York pour entamer sa tournée de conférences sur l'art aux États-Unis.
Donc c'est vraiment la tournée de conférences qui marque le début de cette histoire de publication alors.
Tout à fait, tout à fait. Stoddart rencontre Wilde à ce moment-là. Je pense qu'il avait déjà dû lire ses poèmes. Il l'aimait beaucoup, et tout ça va se concrétiser 7 ans plus tard, à l'été 89. Le même Stoddart est de passage à Londres. Il vient précisément négocier en fait la distribution de son magazine en Grande-Bretagne, ce qui n'était pas encore le cas à l'époque. Et il en profite pour dîner avec deux des écrivains anglais qu'il admire le plus, Arthur Conan Doyle et Oscar Wilde. Et il va tous les deux leur commander un roman pour sa revue. Arthur Conan Doyle va donner Le Signe des Quatre, qui est la deuxième aventure de Sherlock Holmes, et Oscar Wilde va donner Le Portrait de Dorian Gray. Voilà.
Vous comprenez qu'il ait aimé ces deux écrivains-là en particulier?
Stoddart, en tout cas, on peut parce que si Stoddart est celui qui est le premier à censurer Dorian Gray, il aimait quand même Wilde, et si je puis dire, il aimait son genre, parce que il savait très bien, je veux dire, il l'a commandé, il l'a employé en conscience. Il savait très bien qui est-ce qu'il employait, et surtout le Leaping Cots était publiait notamment les auteurs de ce qu'on appelait l'Erotic School, qui était quelque chose qui a été oublié depuis, qui était un petit groupement d'auteurs américains qui publiait non pas des histoires qu'on dirait érotiques aujourd'hui, mais qui étaient sentimentales et souvent avec des choses hors mariage, et donc illicites, ce qui était déjà le problème à l'époque, et qui étaient très inspirés des esthètes anglais, donc en fait de Wilde. Donc bon, Stoddart savait très bien, bon, il aimait Wilde en conscience, et qu'il puisse aimer Conan Doyle, bon, je veux dire, il dirigeait surtout un magazine, et en réalité, il avait surtout des considérations, et c'est bien normal, il avait des considérations commerciales, surtout, ouais.
Donc, dans ce livre, Le Portrait de Dorian Gray, qui est publié dans le magazine, on le publie dans une forme qui est pas du tout celle qu'on connaît aujourd'hui, ou du moins pas tout à fait celle qu'on connaît aujourd'hui. On peut dire d'abord que c'est une forme qui est plus courte.
Tout à fait, plus courte, plus primitive aussi, pourrait-on dire, mais en même temps, plus transgressive.
Pourquoi primitive ?
Parce que c'est en fait la première version, donc bah, cette version plus courte, et c'est vrai que souvent la seconde version, qui correspond en fait à la parution en volume en 1891, l'année suivante, cette version est en général désignée comme augmentée et définitive. Mais vous parliez hier du procès en diffamation que Wilde avait intenté au marquis de Queensberry avec Charles Danzig, et l'avocat de Queensberry, pendant ce procès, on le sait, a utilisé le portrait de Dorian Gray comme une pièce à conviction quasiment pour prouver l'homosexualité d'Oscar Wilde. Et lui va utiliser la version Leaping Cots et il se référera à la seconde version, non pas comme à la version augmentée, mais comme à la version expurgée. Ce qui veut bien dire que cette première version est plus primitive parce qu'antérieure, mais en même temps plus scandaleuse.
Alors, on y enlève tout de même 500 mots avant de le publier dans ce magazine-là.
C'est ça, c'est-à-dire que bon, Wilde va envoyer son manuscrit à Stoddart 8 mois après la commande. Déjà, il est très en retard, évidemment, et Stoddart reçoit le manuscrit, et il est très embêté, parce qu'à la fois, il est ébloui par ce qu'il lit, et en même temps, il est convaincu que va y avoir un vrai problème à la publication, parce qu'il lit trop de choses qui lui paraissent pas convenables à imprimer, scabreuses. C'est moins une question de sa sensibilité personnelle, en réalité, qu'une crainte et des conséquences judiciaires et des conséquences commerciales.
Donc, qu'est-ce qui est retiré, finalement, alors, de ce livre? Parce que ce qu'on a lu n'est donc pas ce qui a été prévu, finalement, par Oscar Wilde.
C'est ça. Alors, la censure, bon, au premier chef, vise le contenu homosexuel. Ça, c'est très clair. C'est-à-dire, bon, ce qui est très frappant, c'est au chapitre 7, alors, de ma traduction, qui correspond au chapitre 9 de la version que tout le monde connaît, en fait, Basile, le peintre du portrait, déclare sa flamme à Dorian Gray. Et dans la seconde version, tout ça, en fait, est rendu très flou dans une espèce d'admiration platonicienne d'un artiste pour son modèle.
Je reconnais avoir conçu pour toi un amour fou, extravagant, irrationnel. Ça, c'est ça, ce qui a été, entre autres,
coupé. Tout à fait. Tout à fait. Il dit ça. Il dit même, je reconnais avoir conçu pour toi des sentiments bien plus tendres que ceux qu'un homme devrait normalement avoir pour un autre homme, pour un ami. Il dit, je n'ai jamais aimé aucune femme. D'une certaine manière, je me l'explique pas, mais c'est comme ça. Et toi, je t'ai aimé d'un amour fou, extravagant, irrationnel. Ce qui veut dire quand même que l'homosexualité était, je veux dire, explicite dans la première version et pas seulement latente et allusive comme dans la deuxième version.
Tout comme a été éliminée la description que fait Basile de la villégiature de Dorian.
Oui, voilà. Alors après, il y a plein de petits de caviardages ponctuels. Effectivement, à un moment, Basile dit à Dorian ta maison qui s'appelle Selby Royal. Il suffit de dire qu'un jeune homme va passer du temps dans ta maison pour que tout le monde se mette à glousser et à ricaner. Il y avait plein de petites choses comme ça, effectivement, qui déjà à l'époque étaient scandaleuses.
La seule façon de se débarrasser d'une tentation est d'y céder. Si l'on y résiste, l'âme défaille de trop désirer ce qu'elle s'est refusé, de trop convoiter ce que ses lois monstrueuses ont rendu monstrueux et illicite. Ce n'est ni la volonté ni le désir qui gouvernent notre vie. La vie est une question de nerfs, de fibres, de cellules lentement formées où la pensée se cache, où la passion blottit ses rêves. En vain pensez-vous les braver, et vous croyez-vous fort. Telle tonalité dans une chambre, ou dans un ciel matinal, tel parfum autrefois bien cher et qui nous rapporte de subtils souvenirs, tel vers d'un poème oublié qu'on vient de relire, telle phrase d'un morceau de musique qu'on ne jouait plus depuis longtemps. Sachez-le bien, Dorian, ce sont des impressions de ce genre qui décident notre vie.
Stan Todorov, que vous inspire la découverte, ça fait depuis 2011 qu'on le sait, je crois, du caviardage très précoce du portrait de Dorian Gray.
Si j'ai bien compris, il y a trois versions.
Vous avez très bien compris, c'est ça.
Non, pas deux.
C'est ça.
Celle qu'a écrite Wilde,
exactement.
Celle qu'a publiée César, et celle que nous connaissons,
c'est tout à fait
connaissions
ça.
Aujourd'hui.
C'est tout à fait ça.
Est-ce que vous savez si Wilde a donné son approbation pour les...
Eh bien, on sait précisément que non. Justement, en fait, cette censure a été faite non seulement sans le consentement de Wilde, mais en plus sans même qu'il le sache, et en fait dans son dos, puisque le jour même où la rédaction en chef du magazine américain décide de la censure... Le jour même, Stoddart, le directeur, écrit à Wilde pour lui dire « Votre roman, monsieur, est fantastique, tout le monde à la rédaction l'a adoré, nous allons le publier. » Point. Et à aucun moment, il ne lui parle de cette censure qui se fait en fait à son insu. Et il y a en fait fort à parier que Wilde a découvert cette censure, comme tout le monde, en ouvrant son propre exemplaire du magazine.
Et du coup, ça permet de faire une archéologie du texte et de comprendre ce que Wilde a changé et comment finalement son écriture s'est modifiée, comment la structure du texte s'est modifiée. Vous pensez d'ailleurs que c'est un meilleur texte qui a été publié d'abord en magazine que celui qui a été publié en volume, Anatole Tomsak?
C'est-à-dire que la seconde version, la version volume, contient quand même 6 chapitres de plus, donc ça fait 6 chapitres de plus de Wilde. Donc ça fait 6 chapitres
plus de Wilde, c'est toujours mieux.
Voilà, ça fait 6 chapitres de plus de plaisir. Donc la seconde version a évidemment beaucoup de mérite et sans doute est-elle capitale. La version que nous publions chez Grasset ne la remplace pas, mais elle la complète de manière très intéressante, et c'est vrai que elle donne vraiment une autre couleur au roman. C'est-à-dire même au-delà de la censure, dans le contenu homosexuel, il y a même un traitement de Dorian Gray lui-même à la fin qui est différent, puisque dans la première version, en fait, Dorian Gray est moins uniformément monstrueux, puisque à la fin, face au portrait, il a un moment en fait de rédemption, de renoncement. Alors et on a tellement accusé Wilde en fait de ne pas assez ouvertement prendre ses distances vis-à-vis de son personnage, qu'il a dû dans la seconde version le rendre totalement et donc platement monstrueux. En fait, dans la première version, il est plus humain, plus épais, plus ambigu.
C'est Anton Todorov.
Je serais curieux, oui, je ne connais pas les variantes, je trouve qu'elles trouveraient bien leur place. aujourd'hui dans les appendices de l'édition standard. Mais je n'avais pour ma part aucun doute quant à la relation homosexuelle rapportée par le roman. Les relations de, les sentiments de Basile étaient suffisamment indiqués. Je dirais que cette manière très indirecte de le suggérer n'était pas moins éloquente. Et
donc il aurait gagné finalement à être resserré, selon vous, de Stepan Todorov? Finalement,
c'est
à être plus
c'est
dans
difficile
le
de porter des jugements aussi tranchés. Mais je pense que le roman n'a pas beaucoup perdu, parce que Wilde l'avait exprimé, cette présence, par toutes sortes d'éléments de son récit, autre que la désignation directe de ce qui était en train de se jouer.
Oui, quand même, vous aviez remarqué qu'il y avait une ambiguïté entre ces deux personnages.
Voilà, évidemment, et avant moi, en fait, toute la société victorienne, puisque le roman, évidemment, même censuré, n'a pas manqué d'attirer les ennuis qu'on sait à Oscar Wilde.
Alors, il faut quand même préciser que Stoddart n'a pas seulement censuré l'amour homosexuel dans ce roman, il a censuré plus largement aussi les amours hétérosexuels.
Oui, parce qu'en fait, ce qui l'inquiétait était le caractère illicite de ces relations. Donc évidemment, toutes les relations homosexuelles tombaient là-dessous, mais en réalité, toutes les relations hétérosexuelles hors mariage. Et il y en a beaucoup, en fait, dans Dorian Gray, puisque Dorian n'est jamais marié. Bon, il est fiancé à un moment au début, mais après, il séduit tout un tas de personnes, hommes et femmes. Et donc, déjà, ça, c'était trop. Et donc, Stoddart, notamment, a enlevé toutes les mentions du mot maîtresse quand Dorian parle donc de Sybil Vane d'abord et après de Etty Merton. Voilà, parce que ça l'inquiétait déjà beaucoup.
Alors vous racontez aussi dans cette préface, Anatole Tomsak, le contexte législatif qui entoure un petit peu cette période victorienne, et notamment il y a une anecdote assez amusante que vous pouvez nous raconter peut-être rapidement pour terminer cette émission.
Sur le comment a été voté, voilà, bah, en fait, il existait tout un appareil répressif à l'époque en Angleterre, et notamment il y avait cette loi votée en 90 ou en 85, et donc en fait au départ les députés se réunissaient pour parler d'un problème purement hétérosexuel qui était le proxénétisme sauvage dans l'est de Londres, qui réduisait en esclavage toutes les jeunes filles de la classe ouvrière.
D'autant que Jack l'Éventreur était paru 2 ans auparavant seulement.
C'est ça, c'est-à-dire que Jack l'Éventreur venait de sévissait, il y avait vraiment toute une paranoïa, c'est vrai, qui entourait le sujet de la sexualité en général. Il y avait vraiment une peur autour de ça. Et donc finalement, on se met à donc voter une loi pour ça. Et alors que le vote va avoir lieu, ça fait 11 heures qu'on délibère, il y a un député qui s'appelle Henri Labouchère.
Souvenez-vous de ce nom.
Voilà,
c'est un nom français d'ailleurs, c'est bizarre.
Un nom français, mais pourtant il était anglais, puisqu'il était il connaissait Wilde en plus, il se connaissait socialement, je veux dire. Et voilà, et donc ce Labouchère propose, in extremis, de, en plus, condamner les relations entre hommes. Et voilà comment est né l'amendement qui, plus tard, allait envoyer Oscar Wilde au bagne.
Exactement. Merci beaucoup, Anatole Tomsak.
Merci.
Je rappelle que votre nouvelle traduction du portrait de Dorian Gray vient de sortir chez